Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur la transformation de Gédéon dans Juges, chapitre 6, verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros !» Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se retourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Amen. Je rappelle brièvement le contexte du livre des Juges. Dans le livre des Juges, nous voyons que le peuple de Dieu s'était éloigné de Dieu. Il y avait un déclin spirituel, c'est-à-dire que l'âme du peuple n'était plus attachée au Seigneur. Et la phrase qui revient constamment dans le livre des Juges, c'est « Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel ». Et cette phrase revient 8 fois dans le livre des Juges. Donc à chaque fois, Dieu suscite un ennemi pour faire réagir le peuple et le faire revenir dans les voies du Seigneur, pour l'amener à la repentance. Et ça, ça nous enseigne que si nous désobéissons, il y aura toujours des conséquences. Parce que Dieu n'aime pas la désobéissance et nous devons avoir la crainte de Dieu, c'est-à-dire la peur de désobéir à Dieu, parce que nous savons que Dieu est juste et il est juge et il reprendra aussi des enfants qui sont désobéissants. Ça, c'est la crainte de Dieu. Donc l'Éternel a livré Israël entre les mains de Madian pendant 7 ans. Alors qui étaient les Madianites? Pour résumer, les Madianites, c'était des nomades. Ils étaient dans le désert. Et puis petit à petit, ils s'étaient imposés en Israël. Il faut savoir qu'ils étaient nombreux et puissants, mais à l'origine, Israël était plus fort qu'eux. Ils étaient sous leur domination. Mais maintenant, c'était l'inverse. Ils avaient pris le dessus sur Israël, puisque Israël s'était éloigné de Dieu, il s'était affaibli. Et les Madianites étaient devenus plus puissants. Le fait est que lorsqu'ils arrivaient quelque part, ils ravageaient tout, ils prenaient les récoltes, et Israël s'appauvrissait, les Madianites s'enrichissaient. La leçon qu'on peut tirer, c'est que ceux qu'Israël avait vaincus autrefois étaient devenus leurs maîtres aujourd'hui. Ça veut dire que si on se détourne du Seigneur, les anciens maîtres que vous aviez vaincus peuvent devenir à nouveau vos maîtres si vous cédez au péché et si vous détournez de Dieu. Donc le peuple finalement a bien réagi, il s'est repenti, il a crié à l'Éternel, quand même au bout de 7 ans. Alors je rappelle, c'est pas nécessaire d'attendre aussi longtemps pour crier à l'Éternel, c'est-à-dire vous repentir, parce que plus les années passent, plus c'est difficile, plus les complications viennent. Et l'Éternel a envoyé un prophète pour rappeler au peuple les paroles de Dieu, que l'oppression était bien la conséquence de leur péché, qu'il ne fallait pas continuer dans la défiance vis-à-vis de Dieu, mais qu'il fallait changer de cœur. Ça veut dire qu'il y a toujours une possibilité de revenir à Dieu, mais ne tardez pas, parce que plus vous tardez, plus vous créez des complications dans votre propre existence. Alors le premier point que j'aimerais partager, c'est d'abord l'appel de Gédéon dans ce contexte de marasme spirituel. Dieu va susciter un homme pour libérer le peuple sous la domination de Madian. L'appel de Gédéon. Gédéon battait d'abord du froment dans un pressoir. Ça veut dire qu'il vivait dans la crainte, il était dominé par ses ennemis, par ses peurs. Et il est bien croyant, c'est-à-dire il croit que Dieu existe, il croit que Dieu est tout-puissant, il prie tout comme un croyant. Sauf que il ne considère pas que Dieu peut changer la situation dans laquelle il est aujourd'hui. Il pense que la situation est là, que Dieu ne fait rien, et il est paralysé, il est dans ses peurs. Ça veut dire que si vous êtes dominé par vos peurs, par vos craintes, vous serez paralysé et vous n'aurez pas la foi pour croire dans une percée et dans un miracle. La vision de Gédéon est ultra négative. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué quand on a lu le texte, mais l'ange de l'Éternel vient avec une belle parole. L'ange dit à Gédéon, « L'Éternel est avec toi, tu es un vaillant héros. » C'est une bonne parole, ça. Est-ce que c'est positif ou négatif ? C'est positif. Et en face de l'ange de l'Éternel, on a un Gédéon ultra négatif. Mais la parole de Dieu est positive. Elle nous rappelle ce que nous sommes quand nous sommes en Christ. Dieu déclare une parole spirituelle. L'Éternel est avec toi, tu es un vaillant héros. Ça, c'est la vision de Dieu. Moi, j'ai remarqué que la vision de Dieu, elle est grandiose. Dieu voit les choses en grand. Déjà, nous sur terre, on peut imaginer des grandes choses, mais Dieu voit les choses encore plus grandes. Regardez l'appel d'Abraham. Quand Dieu a appelé Abraham, qui avait quand même 75 ans, il lui dit, je ferai de toi une grande nation. Il ne dit pas une petite nation, une grande nation. Tout de suite avec Dieu, ça prend des proportions énormes. Alors qu'Abraham est seul. Il dit, je rendrai ton nom grand. Tout est grand. Il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est énorme. La vision de Dieu, elle est grandiose. C'est pourquoi il dit, toi, Gédéon, tu es un vaillant héros. Et Dieu voit les choses en grand parce que notre Dieu est grand. Et nous devons avoir cette vision de Dieu, que Dieu est tout puissant, qu'il est grand et qu'il domine sur toute chose. Alors Dieu voit Gédéon comme il est appelé à devenir. Il appelle déjà vaillant héros, alors que Gédéon n'a même rien accompli encore. Et il lui dit, toi tu es un vaillant héros. Il est évident que Gédéon, au moment où l'ange de l'Éternel lui parle, qu'il n'est pas encore entré dans cette dimension-là. Il n'a pas l'allure d'un vaillant héros, il se cache de l'ennemi, il a peur pour sa vie, il n'est pas encore entré dans la vision de Dieu pour lui. Mais cette parole, c'est ce que Dieu veut faire de lui. En quelque sorte, Dieu lui dit, si tu crois en moi, si tu mets ta foi en moi, tu es un vaillant héros et tu vas faire de grandes choses pour moi. Lorsque Dieu appelle Jérémie dans Jérémie chapitre 1 verset 5, Jérémie n'est pas encore né, que Dieu déclare sur la vie de Jérémie des choses grandioses. Il dit, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, Jérémie n'était même pas encore né, il était encore qu'un embryon. Je te connaissais et avant que tu sois sorti de ton sein, je t'avais consacré et établi prophète des nations. C'est encore des grandes choses. Tant Jérémie n'est même pas encore né, mais Dieu déclare sur sa vie de grandes choses. Ce qui paraît impossible pour nous n'est jamais un problème pour Dieu. En fait, en réfléchissant, je me suis rendu compte que Dieu n'a jamais de problème. Nous, on a toujours des tas de problèmes, mais pour Dieu, les problèmes n'existent pas. Les problèmes, c'est que pour nous. Pour Dieu, c'est même pas un problème de faire parler un animal, par exemple. Nous, on ne pourrait pas le faire. Il a fait parler l'ânesse de Balaam, par exemple. Voilà. C'est quelque chose d'impossible. Mais pour Dieu, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Donc, quand vous priez Dieu, quand vous vous approchez de Dieu dans la louange, dans l'adoration, déjà, regardez sa grandeur et sa puissance et considérez-le comme il est. Il est tout puissant et il est grand et il est fort. Et il peut tout faire. Gédéon reçoit un appel sur sa vie. Alors notez qu'il n'a rien demandé, parce qu'il ne cherchait pas particulièrement à s'engager pour Dieu. Il aurait bien voulu rester dans son coin, très certainement. Mais Dieu appelle encore aujourd'hui des hommes et des femmes à se lever et à le servir. Et c'est Dieu qui décide. Alors c'est vrai que tous ne deviendront pas des pasteurs ou
des apôtres ou des évangélistes ou des enseignants, des prophètes, parce que les appels de Dieu sont variés. Dieu appelle toutes sortes de personnes dans toutes sortes de services. Mais le premier appel, qui est certainement le plus important d'entre tous, c'est que Dieu vous appelle au salut, tous. 1 Pierre 2:9. Pierre écrit, « Vous donc, au contraire, vous êtes une race élue, il parle à l'Église, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Voilà le premier appel de Dieu que vous devez entendre déjà. Et j'espère que vous l'avez déjà entendu pour votre vie. C'est l'appel au salut. Appeler des ténèbres à sa lumière. Appeler du péché à la sainteté. Ça, c'est un appel. Parce que nous étions quand même, il dit, nous n'étions pas d'abord cette race élue. Paul dit que nous étions perdus, nous étions séparés de Dieu. Donc nous étions aveugles, nous étions dans le péché, nous étions dans les ténèbres et nous avons entendu l'appel de Dieu. L'appel à venir à Christ, l'appel à quitter ce monde. Colossiens chapitre 1 verset 13. Quand je dis quitter ce monde, je parle de la mentalité du monde et de son principe parce que le monde est gouverné par le diable et sa pensée. Mais bien sûr, nous sommes bien dans le monde pour témoigner, pour être des lumières et des témoins. Colossiens 1, 13, « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Ça, c'est un appel à sortir des ténèbres, à rompre avec le péché et à connaître la lumière de Dieu. Il y a une lumière qui existe, elle est spirituelle, elle est invisible, et tant qu'on n'est pas dans la lumière, on est encore perdu dans les ténèbres. Maintenant, j'en viens à Gédéon. Face à ces belles paroles, il y a des promesses sur sa vie. L'ange de l'Éternel lui parle, c'est extraordinaire. Et puis Gédéon, il est ultra négatif. Sa vision sur lui-même est négative. C'est difficile de travailler avec des gens qui voient tout le temps les choses en négatif. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Travailler avec des gens, mais vous faites une proposition. « Ah non, ça ne va pas marcher, ce n'est pas la peine d'essayer. » Ça, c'est un état d'esprit. En fait, Gédéon, il a un état d'esprit tourné vers tout ce qui ne va pas. Tout ce qui ne va pas, il le voit. Il n'y a plus de miracle. Dieu nous a abandonnés. La situation est difficile. Je ne suis pas la bonne personne. Envoie quelqu'un d'autre. Bon. Et il commente, il conteste avec l'ange. Le problème, c'est qu'il oublie que cette situation difficile qu'il traverse est la conséquence du péché du peuple et de son péché à lui. Il doit se repentir, il doit changer d'attitude et ne pas s'entêter dans le péché. Ensuite, j'ai remarqué que Gédéon se dévalorise constamment. Il se dévalorise, il se sent toujours incapable d'accomplir la mission de Dieu. Il se considère comme trop petit, comme trop faible. Et c'est vrai dans un sens, on peut dire la même chose. On est si petit, on est si faible. C'est vrai. Mais est-ce que c'est un problème pour Dieu ? Et Dieu peut utiliser des personnes faibles. Donc pour Dieu, ce n'est pas un problème. Ce que vous, vous considérez comme un problème n'est pas un problème pour Dieu. J'aime beaucoup ce témoignage de Nick Vujicic, vous avez entendu parler hein, de cet homme qui est né sans bras ni jambes. C'est quand même assez impressionnant son témoignage. Et malgré ce handicap, et on pourrait dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie ? Imaginez même une journée, vous n'avez pas de bras, pas de jambes, ne serait-ce qu'une journée. C'est... Déjà, on se demande comment on va s'en sortir. Mais toute une vie, sans bras, sans jambes. Il s'est converti, donc il a donné son cœur au Seigneur. Et puis Dieu l'a appelé. Hein. Dieu l'a appelé, il parle du Seigneur dans... Eh bien, il parle dans plusieurs pays. Alors qu'il a un handicap incroyable, il ne peut pas se déplacer, il ne peut pas même s'habiller, tout est compliqué en fait. Tout est extrêmement compliqué. Et pourtant, il va prêcher la parole de Dieu. Il est allé dans 24 pays. Il s'est adressé à plus de 3 millions de personnes. 200 000 personnes se sont tournées vers le Seigneur. Enfin, Dieu fait des choses extraordinaires malgré la faiblesse de nos moyens. Et voyez, il aurait pu dire à Dieu, « Mais Dieu, comment c'est pas possible de te servir avec mes conditions ?» Mais finalement, il a abandonné ses faibles conditions entre les mains de Dieu, et Dieu fait de grandes choses à travers nos faibles conditions. Alors ne dites pas, je n'y arriverai pas, je ne suis pas capable, parce que quand on voit ce que Dieu fait avec un homme comme Nick Vujicic, Dieu peut faire des choses avec nous. On a encore des bras, on a encore des jambes. On peut faire des choses pour le Seigneur. Et Dieu peut utiliser qui il veut, et ce n'est pas un problème pour Dieu. Alors nous devons commencer par changer d'état d'esprit, parce que si on a le même état d'esprit que Gédéon, c'est sûr qu'on est mal parti pour faire quelque chose. Il faut changer d'état d'esprit. Commencer par voir ce que Dieu fait avec nos faibles capacités, commencer par changer nos raisonnements, commencer par mettre la pensée de Dieu dans notre esprit, croire les promesses de Dieu, ce qu'il a déclaré sur notre vie. Oui, tu es un vaillant héros, Gédéon devait commencer à croire ses promesses, commencer à les vivre. Oui, c'est vrai, Dieu a un appel, je le crois, je le reçois. Parce que depuis l'enfance, peut-être qu'on vous a dit, toi, tu n'arriveras jamais dans la vie. Et vous êtes né avec cette mentalité de « c'est vrai, on m'a dit que j'y arriverai pas, j'y arrive pas ». Alors, il y en a qui ont prononcé des paroles sur votre vie. Par exemple, tu es trop petit, tu es incapable, ou tu n'arrives pas à l'école. Tu ne pourras jamais travailler parce que tu ne peux pas. Tu ne peux pas, tu ne t'en sortiras pas. Et toutes ces paroles, on les a intégrées comme des vérités. Donc c'est pour ça que si nous sommes comme Gédéon, nous devons d'abord reformater notre état d'esprit. Parce que ce n'est pas un état d'esprit selon Dieu. Regardez quand Jésus arrive, lui il change les choses et il dit « tout est possible à celui qui croit ». Ça, ce n'est pas la même chose. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que vous le croyez ça? Ça n'a rien à voir avec les paroles de Gédéon. Gédéon, il est en train de dire « c'est pas possible, je suis trop petit, j'y arriverai jamais ». Jésus dit « tout est possible à celui qui croit ». Vous voyez, ce n'est pas le même logiciel. Et nous, il nous faut intégrer le logiciel de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que vous avez ce logiciel dans l'esprit? C'est important, parce que sinon vous allez raisonner à l'envers. Et c'est ce que Jésus veut, changer d'état d'esprit. Donc le diable vous dévalorisera constamment, peut-être qu'il va vous montrer vos failles, vos échecs, on en a tous. On a tous des limitations, on a tous des faiblesses. Mais Dieu utilise des êtres humains faillibles pour faire les choses du royaume de Dieu. Alors ne vous laissez pas paralyser par vos incapacités, par vos faiblesses, par vos failles, parce que ça c'est l'ennemi qui voudrait vous arrêter. Vous voyez, Pierre, à un moment donné, il a failli tout arrêter. Il avait renié Jésus, et il était très déçu de lui-même. Et il disait, moi je ne suis pas digne de servir le Seigneur. Et il était retourné à son métier de pêcheur. Ça, c'était après la crucifixion. Mais Jésus est venu et il est apparu aux disciples, il était sur le bord du rivage. Les disciples sont venus, ils ont reconnu le Seigneur. Et là, Jésus, à trois reprises, il a réhabilité Pierre en disant, mais Pierre, paie mes agneaux, paie mes brebis. « Occupe-toi de mon troupeau !» Ça voulait dire, « Pierre, tu te sens incapable, c'est vrai, tu as fauté, mais je te réhabilite, je te donne une nouvelle dimension dans ta vie, reprends espoir, reprends ton service. » Gédéon devait commencer à croire les paroles de l'ange sur sa vie. Il devait plus croire les paroles de l'ange que ses propres pensées à lui. Ses pensées qui disaient, « Non, Gédéon, tu n'es pas capable. Non, tu n'y arriveras pas, tu es le plus petit. » Donc vous avez le choix, soit vous croyez les paroles de Dieu, soit vous croyez vos propres pensées. On ne peut pas suivre les deux. Alors on peut être surpris des fois des choix de Dieu. Regardez comment Jésus a choisi les douze apôtres. Certains, on pouvait être étonnés parce qu'ils avaient des grosses failles. Quand vous voyez Pierre, il est toujours impulsif, prêt à parler en premier, puis il dit des contre-vérités. Et des fois, Jésus a dû le reprendre. Et puis quand Jacques et Jean passent à côté d'une ville des Samaritains qui ne veut pas les recevoir, il dit, Jésus, on va demander au feu du ciel de tomber, les consumer tous. C'était vraiment colérique. Philippe, lui, calculait toujours pour savoir si on allait pouvoir s'en sortir. Et puis Thomas, il était toujours sceptique par rapport au miracle. Donc ils ont finalement progressé au contact du Seigneur, mais on ne peut pas dire qu'ils étaient très vaillants, très qualifiés. Dieu aime bien utiliser des personnes comme les apôtres, comme les disciples, avec des hauts, avec des bas, avec des failles, avec des faiblesses, mais on met tout entre les mains du Seigneur et on lui fait confiance. Deuxième point, c'est que maintenant Gédéon bâtit un autel à l'Éternel, c'est au verset 24, Juges 6, 24. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel Paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartient à la famille d'Abiézer. C'est une étape suivante parce que quand vous arrêtez de lutter contre Dieu, vous trouvez la paix. Il appelle cet autel Yahvé Shalom, on traduit l'Éternel Paix. Mais tant que vous luttez avec Dieu, comme il était au début avec l'ange, vous n'aurez pas la paix. Parce que Dieu vous poursuivra pour vous ramener dans ses voies. Un petit peu comme avec Jonas, Dieu l'a poursuivi par la tempête, le grand poisson, pour le ramener à l'obéissance. Gédéon accepte le plan de Dieu pour sa vie, donc il a la paix. Et il nous faut accepter la volonté de Dieu, il nous faut chercher sa volonté et l'accepter. Mais ce plan ne se réalisera que si vous acceptez que Dieu dirige toutes choses dans votre vie. Vous devez donc d'abord crucifier la chair et ses désirs, vos propres pensées, vos propres plans, et chercher à faire le plan de Dieu. Tant que vous résistez à Dieu, vous ne pourrez pas bâtir un autel à l'Éternel et trouver la paix de Dieu. Ce n'est pas possible. Vous êtes encore en combat contre Dieu, un peu comme Jacob, il luttait avec l'ange, il luttait toute la nuit. Eh bien, tant qu'on ne veut pas obéir à Dieu, on est en combat. On est en combat, on est en lutte, on n'est pas bien. Et ça, c'est parce qu'on n'a pas encore abdiqué. Mais quand Gédéon a cessé d'argumenter avec l'ange, il a trouvé la paix. Il a reconnu que Dieu dirige tout. C'est comme ça, Dieu travaille avec des serviteurs obéissants. Des serviteurs, des servantes, ils cherchent ceux qui obéissent. Si vous êtes orgueilleux au contraire, si Gédéon s'était entêté, Dieu aurait choisi quelqu'un d'autre. Pierre recommande ceci dans 1 Pierre 5, 6, et c'est un ordre. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Cet ordre, il est adressé à qui d'après vous? Quand Pierre dit « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu », il s'adresse à qui? Il s'adresse à des pasteurs? Oui, aussi, il s'adresse à des pasteurs, mais pas que. Il s'adresse à l'Église. Et qui est-ce qui doit s'humilier ici? Chacun de nous. Et si nous ne le faisons pas, qu'est-ce qui se passe? Dieu va créer les circonstances pour qu'on soit humilié. Donc nous avons tout intérêt à obéir à la parole de Dieu. Parce qu'il vaut mieux s'humilier soi-même que de se retrouver humilié dans une circonstance. Mais si nous ne le faisons pas, sachez que l'humilité viendra d'un autre moyen. Donc humiliez-vous, c'est un conseil de Dieu, et nous devons le faire nous-mêmes et le plus souvent possible, de sorte que ça n'arrivera pas par une autre circonstance. Troisième point, c'est maintenant la consécration de Gédéon. Donc on avance, on a vu premièrement que Gédéon a reçu l'appel, il a trouvé ensuite la paix en cessant de discuter avec Dieu. Maintenant, il se consacre, c'est les versets 25 à 27. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends un jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattue. » Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit, mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Alors la consécration, c'est quoi? C'est que Dieu d'abord demande à Gédéon de faire un nettoyage dans sa maison. Son père, si vous remarquez, il avait accepté un autel à Baal. Baal, c'est donc une idole. Il y avait un poteau sacré dessus, un pieu sacré. Ça, on sait que ce sont des idoles et que ça ne peut pas plaire à Dieu. Quand un croyant a un autel à Baal à la maison, il y a un problème. Il y a un problème. Alors évidemment, aujourd'hui, ce n'est pas des autels en pierre. Mais tout ce qui prend la place de Dieu, c'est déjà une idole. Et on sait que quand on prend du temps pour les choses de ce monde, on prend du temps pour la télévision, pour Internet, pour toutes sortes de choses, et puis on n'a plus le temps pour Dieu, déjà, il y a une idole qui prend place. Donc les idoles de l'époque, elles étaient assez visibles, aujourd'hui elles sont invisibles, mais elles sont bien là. Et Dieu avait donné cet ordre à Josué avant d'entrer en Canaan, quand vous entrerez en Canaan, vous détruirez toutes les idoles. Bon, sauf que le peuple l'a fait, mais petit à petit, des idoles sont revenues. Et si nous ne veillons pas, par négligence, ben, les choses se remettent. Il y a deux verbes importants que vous pouvez retenir ici. Premier, c'est au verset 25. Premier verbe, c'est renverser, renverse l'autel. Et deuxième verbe, c'est au verset 26, bâtir. Deux verbes et un ordre précis. Commence par renverser ce qui est mauvais et ensuite tu pourras bâtir quelque chose de solide pour Dieu. Et cet ordre est important. Vous devez commencer par renverser les idoles avant de pouvoir construire un autel pour Dieu. Dieu a demandé la même chose à Jérémie dans Jérémie 1:10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches, et là on commence par détruire. Arrache, que tu abattes, que tu ruines et que tu détruises. Première étape. C'est-à-dire tout ce qui est mauvais, il faut déjà l'enlever, le déraciner. Et ensuite, deuxième aspect, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Et on ne peut pas vraiment planter pour le Seigneur. On ne peut pas bâtir quelque chose de solide si on n'a pas réglé les problèmes de fond. Donc si vous ne prenez pas le temps de le faire, comme Gédéon ici, ben, votre construction pour Dieu, elle ne va pas tenir. Elle va chanceler et ça va s'effondrer. Alors ce n'était pas facile, hein, on lit ça nous. Bon, c'est le récit, mais on se met à la place de Gédéon. C'était quand même sa famille, c'était son père, il doit respecter son père. Et Dieu lui demande d'aller détruire l'autel qui est chez son père. C'était un peu gênant. Lui et ses parents qui vivaient là avec l'idole, ça ne leur posait pas de problème. Hein. Ils étaient donc endormis spirituellement, ils laissaient le péché s'installer. Mais là, tout d'un coup, Gédéon se consacre et il vit un réveil spirituel. Il dit, mais on ne peut pas laisser passer cette idole. Il faut la détruire. Alors, vous n'êtes pas obligé de suivre l'exemple de vos parents si vos parents ne suivent pas le Seigneur. Ça, c'est à vous de marcher pour Dieu. Vous devez d'abord chercher à plaire à Dieu, même s'il y a un prix à payer, parce que qu'est-ce que vont penser les parents de la situation? Qu'est-ce que vont penser les frères et sœurs? Qu'est-ce que vont penser les amis, les connaissances? C'est arrivé à Abraham. Abraham, quand il a reçu l'appel de Dieu, la Bible dit que Térakh, son père, il servait des dieux étrangers quand même. Donc, Abraham était plus jeune et il a dû expliquer avec son père, non, moi je ne servirai pas les idoles que tu as servies, moi je vais servir Dieu. Il a pris sa position. Térakh et Abraham sont partis, mais Térakh, lui, il avait toujours un cœur tourné vers les idoles. Il n'est jamais entré jusque vers Canaan, puisqu'il est mort à Charan, bien avant d'entrer dans le pays promis. Mais Abraham, lui, il n'était pas attaché aux idoles de son père, il est resté attaché à Dieu. Voilà, c'est un choix personnel. Et le père de Gédéon, par la suite, c'est intéressant parce qu'il a changé d'attitude. Après que Gédéon a renversé cet autel, en fait, on pourrait dire que la situation s'est dégradée pour lui. Parce que les gens se sont tournés contre lui. Il dit, mais qui a fait ça? Fais-le sortir, tuons-le. On pourrait dire que plus Gédéon fait la volonté de Dieu, il fait le bien, plus il a des problèmes. Il n'a pas d'encouragement. Et quand vous faites la volonté de Dieu, des fois vous êtes rejeté, on vous met de côté, on ne vous accepte pas. Mais remarquez que dans sa souffrance et le rejet qu'il vit, le père de Gédéon, si vous lisez la suite, il va prendre position pour son fils et dire ben, que Baal plaide lui-même, puisqu'on a renversé son autel, que Baal règle cette situation, et donc il va protéger son fils. Ça veut dire que certains se retourneront contre vous, oui, mais d'autres vous soutiendront dans la démarche. Ça veut dire que son père, il a quand même compris que ce qu'il avait fait chez lui, ce n'était pas normal. Et qu'il devait changer. Et quatrième point, c'est Juges chapitre 7, versets 1 à 3, c'est maintenant la victoire de Gédéon. Juges 7. Jérubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin, et ils campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord, et Gédéon vers la colline de Moré dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je le livre, Madian, entre tes mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, « C'est ma main qui m'a délivré. » Publie donc ceci aux oreilles du peuple, « Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, il en resta 10 000. » Alors, ça c'est le premier tri de Dieu.
Gédéon, déjà, il avait réussi l'exploit de rassembler 32 000 hommes à sa suite, ce qui est déjà pas mal. Il se retrouve chef d'une armée importante, du jour au lendemain. Hein, quand vous passez de 1 à 32 000, c'est une belle croissance quand même. On pourrait être content, dire merci Seigneur, j'ai une belle armée. Bon, c'est assez rassurant, vous avez du nombre. Et puis la première parole de Dieu, il voit les 32 000 personnes, la parole de Dieu c'est « le peuple est trop nombreux ». Et là, si on se place du point de vue de Gédéon, on pourrait se dire, mais est-ce que vraiment il est si nombreux que ça, le peuple? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que le peuple est trop nombreux? Parce qu'en face, ils étaient combien? Ils étaient 135 000. Donc quand vous êtes 32 000 en face de 135 000, est-ce que vous allez dire, le peuple est trop nombreux là? Vous direz peut-être, le peuple n'est pas assez nombreux. Il faudrait qu'il se multiplie par 3 ou 4, minimum. Hein, c'est comme dans un match de rugby, vous avez les All Blacks, ils sont 15 en face. Et dans le camp adverse, il y en a 4 du Stade Toulousain. Et l'entraîneur, il dit aux 4, vous êtes trop nombreux par rapport aux autres. C'est discutable. Il pourrait dire, on n'est pas assez nombreux. En face, ils sont beaucoup plus nombreux. Plus on est nombreux, plus on est fort. Ça, c'est notre mentalité. Mais pour Dieu, ce n'était pas un problème. Il pourrait même, avec un, faire le travail. Donc, 22 000, ça veut dire les deux tiers s'en vont parce qu'ils ont peur. Ils disent, quiconque a peur, imaginez, vous faites ça dans l'armée française avant la veille d'un combat. Bon, les soldats, qui a peur, vous rentrez à la maison. Je pense qu'il y en aura une grande partie qui partent. Mais ça veut dire que pour ceux qui restent, c'est encore plus démoralisant. Parce que déjà, vous n'étiez pas si nombreux que ça, mais encore maintenant, vous êtes encore moins, vous êtes 10 000. Donc le second tri de Dieu arrive, parce que 10 000 hommes, on peut encore faire quelque chose. Et Gédéon reste positif. Il se dit, bon, merci Seigneur, 10 000, on va y aller. 10 000, c'est bon. Avec 10 000, on va y arriver. Mais la parole de Dieu revient, il dit à Gédéon, 10 000, le peuple est encore trop nombreux. Trop nombreux ? 10 000 ! Alors vous pouvez contester avec Dieu, mais si Dieu dit c'est trop nombreux, il a raison. Et nous, de notre point de vue logique, on dira c'est pas trop nombreux. Mais qu'est-ce que vous devez croire, votre logique ou la logique de Dieu? Si Dieu dit c'est trop nombreux, eh bien nous devons dire, ben, Seigneur, tu as raison, on est trop nombreux. Et c'est Dieu qui va faire le tri cette fois-ci. Alors entre ceux qui l'applaudent et qui l'apportent à la bouche, il y en a 300. Et puis ceux qui se mettent à genoux pour boire, il y en a 9700. Gédéon peut espérer, Seigneur, pourvu que ce soit les 9700 que tu choisisses. Et Dieu choisit les 300. Il choisit le plus petit groupe. Et il dit, c'est par ces 300-là que tu vas délivrer. Et en face, ils sont 135 000. Ça n'a pas diminué. Donc Gédéon subit en quelques instants une réduction de 99% des effectifs entre le moment du départ et les 300 qui restent. Vous imaginez la veille d'une mission importante, votre effectif il se réduit de 99%. Ben, il faut avoir le bon moral. Parce que c'était déjà compliqué à la base, mais là, ça devient vraiment très, très compliqué pour imaginer remporter une victoire dans ces conditions. Et on a l'impression que plus Dieu intervient, plus la situation elle est défavorable pour Gédéon, du point de vue humain. Regardez juste chapitre 7, verset 16. Maintenant, Gédéon met en place une stratégie avec ses 300. Là, il les regroupe et il leur dit, voilà comment on va faire. Il divisa en trois corps les 300 hommes. Il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit, vous me regarderez, vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp et vous direz pour l'Éternel et pour Gédéon. Voilà la stratégie. Alors la stratégie, elle sort de nulle part. Il y a des trompettes, il y a des cruches, il y a des flambeaux. Qu'est-ce que vous allez faire avec un truc pareil face à 132 000 hommes? Une stratégie insignifiante, une stratégie, il n'y a aucun chef militaire qui mettrait ça en place. Et pourtant, c'était bien le plan de Dieu. Le plan de Dieu n'a aucun sens sur la logique humaine. C'est comme David, quand il doit affronter Goliath, le roi lui met une armure, il lui dit au moins avec ça, tu vas t'en sortir. Non, ce n'est pas la stratégie de Dieu. David dit non. Et il va prendre ses cinq pierres et s'affronte.
La stratégie de Dieu est celle que nous devons recevoir dans la prière, dans la recherche de sa face. Alors les soldats ont suivi Gédéon. D'ailleurs, Gédéon demandait aux soldats de l'imiter, comme nous devons imiter Christ, marcher comme il a marché, suivre le modèle de Christ dans ce monde. Et au verset 22, regardez comment ça se termine, Juges 7, 22. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tout le camp, donc c'est le camp de Madian, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Bethshitta, vers Tseréa, jusqu'au bord d'Abel Moéla, près de Tabat. Et là, on voit comment Dieu, en fait, va utiliser ces 300, mais les 300 n'ont même pas eu besoin de combattre en réalité. Ça veut dire que pour Dieu, le nombre n'était pas si important que cela dans l'affaire. C'était plutôt la foi et l'obéissance, parce que la force du peuple n'était pas dans son nombre. La force du peuple, elle était en son Dieu. Et il faut la foi et l'obéissance, parce que quand vous croyez dans les promesses de Dieu et que vous obéissez à sa parole, c'est là que vous êtes fort. C'est là que vous pouvez renverser des montagnes. C'est là que Jésus dit, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. C'est dans cette condition de foi et d'obéissance que tout devient possible. Regardez le psaume 28. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Ça, c'était les Madianites. Ceux-là, sur leurs chevaux. Ils étaient bien armés, bien équipés. Nous, les chrétiens, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. C'est comme ça que nous avons des victoires, frères et sœurs. Ce n'est pas dans le nombre, ce n'est pas dans nos capacités. On est peut-être comme des Gédéons avec nos faibles moyens. Mais si nous avons la foi, si nous avons l'obéissance, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. C'est lui qui ouvre les portes fermées, c'est lui qui ouvre le chemin, c'est lui qui combat pour nous. Il met les armées ennemies en fuite et les Madianites ont été dispersés. En conclusion, Gédéon a été un puissant instrument entre les mains de Dieu. Il a amené la paix pendant 40 ans dans le pays. Quand vous lisez la fin de l'histoire de Gédéon, il y a une ombre au tableau quand même. Et ça nous montre qu'on doit être attentif, même si on est serviteur de Dieu, à ne pas tomber dans les pièges. Parce qu'après sa victoire, qui était vraiment éclatante, extraordinaire, il a été adulé un petit peu comme un héros. Et je ne sais pas ce qui lui est monté à la tête, il a dit « Amenez-moi tous les anneaux d'or et on va fabriquer un éphod en or. » Certainement, c'était pour commémorer cette grande victoire. Sauf que cet éphod en or est devenu un sujet d'idolâtrie et de prostitution dans le pays. Des fois, on prend des décisions qui ne sont quand même pas inspirées. Cette initiative ne venait pas de Dieu, hein, c'est lui qui a dit « Tiens, on va faire ça ». En plus, c'était de l'or, tout ça, c'était dévoué par interdit, c'était tout le butin des Amalécites. Ça ne pouvait pas plaire à Dieu. Et donc, il a fait cet effort de la placer dans la ville. La Bible dit que ça devint un objet de prostitution pour tout Israël. Peut-être que Gédéon l'a fait dans de bonnes intentions. Peut-être qu'il ne voulait pas le mal. Et simplement pour commémorer cette belle victoire de Dieu. Mais néanmoins, quand on ne prend pas le temps de prier, même si on a des bonnes intentions, on fait des choses, mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, ça se transforme en catastrophe. Et puis, c'est devenu un objet de vénération qui glorifiait Gédéon et son succès plus que Dieu. Et puis, le peuple s'est détourné finalement de Dieu pour s'attacher à cet objet. C'est devenu un piège pour Gédéon et sa famille. Ça veut dire qu'on devra veiller jusqu'au bout, prier. Peut-être vous avez eu une grande victoire hier, mais ce n'est pas la garantie d'une victoire demain. Il nous faut constamment chercher la face de Dieu. On n'est pas à l'abri d'une chute. Un chrétien peut même par sa négligence s'éloigner de Dieu, s'écarter et se perdre. Donc c'est important de prier, de discerner la volonté de Dieu. Je voudrais prier un instant. Je vais inviter Élodie à venir pour le piano et on va se tenir devant Dieu. Merci encore pour ta parole. Te rendons gloire parce que tu parles encore aujourd'hui, parce que tu appelles encore aujourd'hui des hommes et des femmes à passer des ténèbres à la lumière. Cet appel qui vient d'en haut, cet appel qui vient des cieux que toi, tu adresses au cœur en cet instant même pour changer de vie, pour passer de Satan à Dieu, pour passer d'une vie de péché à une vie de sainteté, pour accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Oui, il y a un appel qui retentit et cet appel, il vous est adressé ce matin. J'espère que vous avez déjà répondu à cet appel. C'est l'appel par lequel on entre par la porte étroite. C'est l'appel par lequel on devient enfant de Dieu. C'est l'appel qui vient du ciel pour une nouvelle naissance, pour une nouvelle vie. Je vous souhaite d'accepter cet appel pour votre vie et de devenir enfant de Dieu. Et puis, il y a des appels pour le service, il y a des appels pour la consécration, Il y a des appels pour s'engager pleinement dans les voies de Dieu. Merci de faire ton œuvre dans les cœurs, Seigneur, et de bénir ton peuple dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Restons en prière un instant. Peut-être vous êtes venu dans ce lieu et vous savez que vous n'avez pas encore fait la paix avec Dieu parce que votre cœur n'est pas encore pleinement consacré au Seigneur, parce que vous êtes là, mais vous n'êtes pas encore engagé. Vous n'avez pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais si vous mourez aujourd'hui, est-ce que vous avez l'assurance, est-ce que vous avez la certitude d'aller auprès du Seigneur? Est-ce que vous avez fait la paix avec Dieu? Ou est-ce que vous êtes encore en combat dans vos pensées, dans vos luttes? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que Jésus est vraiment le chemin? Est-ce que je dois vraiment m'engager? Eh bien, cet appel, il est là encore ce matin. Peut-être pour une personne qui n'a pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais qui dit « Aujourd'hui, je veux changer de vie. Aujourd'hui, je demande pardon. Aujourd'hui, je me repens de mes péchés. » Et aujourd'hui, je reconnais que Jésus est le seul Sauveur, le seul Seigneur, et je l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Si vous n'êtes pas encore baptisé, baptisé par immersion, entièrement plongé dans l'eau, si vous n'avez pas encore fait la paix avec Dieu, ou bien si vous êtes chrétien mais vous êtes rétrograde, vous avez lâché complètement les voies de Dieu et que vous souhaitez revenir, mais vraiment sincèrement dans la repentance, je vous adresse cet appel de la part du Seigneur aujourd'hui, de donner votre vie au Seigneur. Et si c'est votre cas, alors que nous avons les yeux fermés, alors que nous sommes devant Dieu, c'est entre vous et Dieu. Et si c'est votre cas, je vous invite juste à lever la main pour que je prie pour vous. Est-ce qu'il y a une personne ce matin? Oui, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez baisser la main. Est-ce qu'il y a une autre personne? Vous levez la main bien haut. Oui, que Dieu te bénisse. Tu peux baisser ta main. Est-ce qu'il y a une troisième personne? Je vais prier. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse aussi. C'est bien. Voilà. Je vais prier pour ces bien-aimés. Merci Seigneur pour ces bien-aimés qui ont fait ce pas de foi, de lever leurs mains en signe d'acceptation. Que Jésus, tu viennes régner dans leur vie maintenant, que tu fasses ta demeure dans leur cœur et qu'ils puissent devenir enfants de Dieu. Oui Seigneur, tu as un plan, un projet pour chacun, de passer des ténèbres à la lumière. Seigneur, tu le fais dans leur vie maintenant. Et tu leur permets de marcher de victoire en victoire sur le chemin de la foi et de la consécration dans le nom de Jésus. Amen.